BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bon week-end. Le plus important, j'espère que vous en profitez bien. Merci d'être là, De quoi je me mêle, vous le savez. Chaque samedi et dimanche, votre rendez-vous tech, on passe une heure ensemble avec à la fois un point sur l'actualité et puis tout à l'heure, tiens, on fera un gros point sur Starlink. Vous savez que Starlink est en train de révolutionner l'internet spatial en quelque sorte avec ses satellites basse orbite. Lionel Paris va nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne et quel est l'avenir en fait de ce service puisque des milliers de satellites sont encore attendus au-dessus de nos têtes. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre et puis je vous rappelle aussi une chose, c'est que vous pouvez retrouver en exclusivité De quoi je me mêle dès le vendredi en audio, en podcast ou sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Un bon petit club de la presse IT avec Anthony Morel. Salut Anthony.
Salut François, salut à tous.
Tout va bien Anthony?
Ça va parfaitement bien.
Voilà.
Ravi de vous retrouver.
On retrouve tous les matins, vous le savez, sur BFM Business et à la mi-journée sur RMC, RMC Story avec Estelle Denis. Et en face de nous, on est très heureux d'accueillir cette semaine Éric Le Bourlou. Salut Éric.
Salut François, salut Anthony, salut tout le monde.
Voilà, un classique, un résident de quoi je me mêle, on peut le dire.
Il a son rond de serviette.
Il a son rond de serviette, bien sûr, il a la carte gold que vous pouvez retrouver dans les numériques notamment. Voilà, Éric est un journaliste spécialisé tech, bien évidemment. Alors, au menu de cette première partie de l'actu, on va s'intéresser à la WWDC. Ça doit commencer à chauffer à Cupertino, là, hein, parce que c'est dans 10 jours, là, ça doit commencer à être chaud bouillant.
Clairement.
D'autant que tout le monde parle de cette WWDC. Ils n'ont pas intérêt à nous décevoir, hein, franchement. Hein. On va parler aussi de Google. Encore une petite histoire, pas forcément qui arrange Google avec cette fonctionnalité Overview, qui a fait beaucoup rigoler les internautes. iFixit aussi, qui, vous le savez, s'est spécialisé dans le démontage de produits et puis dans la vente en fait, de petits accessoires pour démonter votre téléphone et tout ça, qui claque la porte du partenariat avec Samsung. C'est très intéressant aussi, on y reviendra. Et puis on parlera aussi de l'avenir du PC avec, vous savez, ces PC copilotes qui s'apprête à sortir. Petite révolution hein, dans le monde du PC, on n'en parle pas assez, mais c'est un vrai séisme avec Qualcomm qui va arriver sur les PC avec de l'intelligence artificielle et on en parlera aussi. Mais pour débuter donc la WWDC, dans 10 jours, je le disais, les rumeurs commencent à bruisser. Enfin, ça fait un moment d'ailleurs hein,
ouais.
Que ça bruisse là, c'est plus que ça. Cela dit, il y a toujours voilà, plein d'interrogations. Hein, que va-t-il se passer? On a malgré tout Mark Gurman, qui est le principal cauchemar de Tim Cook, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça.
Et qui est toujours bien informé.
Ouais, je pense qu'il est rencardé directement par la direction d'Apple. À mon avis,
tu
il a un peu de mèche avec eux. Oh, moi, je pense.
C'est peut-être Tim Cook qui lui dit, tu sais quoi, vas-y, raconte cette dernière info, voilà.
Envoie ça, mets ça sur Bloomberg. Bah, si, moi, je pense pas qu'il puisse avoir toutes ces infos sans être vraiment, avoir un vrai insider très très haut dans la direction et depuis le temps c'est clair qu'ils auraient trouvé la taupe donc à mon avis c'est sûr
qu'il y a beaucoup de gens chez Apple, c'est très siloté en plus normalement quand on bosse sur un projet on sait pas forcément quel est le projet d'à côté alors lui c'est tout donc c'est vrai que c'est un peu bizarre.
Je pense que c'est vraiment le canal non officiel d'Apple pour pouvoir envoyer des ballons d'essai et dire un petit peu en amont ce qu'ils font, ce qui est dommage parce que ça casse un peu les effets de surprise mais bon nous ça nous arrange bien d'une certaine manière.
Mais je trouve cette histoire fascinante de ces informations qui tombent au compte-gouttes. Il y a toujours ce fantasme de se dire d'où ça vient, comment ce Mark Gurman, il y en a d'autres, hein, il y a Ming-Chun Kuo qui arrive toujours à avoir des informations.
Alors lui qui est un analyste, pense qu'il a plutôt via les sous-traitants.
Les sous-traitants, les industries, les usines, etc. etc. Et je trouve ça vraiment fascinant. Donc, les dernières rumeurs concernant Mark Gurman, c'est évidemment iOS 18.
Ouais, c'est ça. Absolument.
Évidemment, on mettrait une grosse couche d'IA, on s'en doute, hein, parce que Apple a énormément de retard sur ce sujet par rapport aux autres. On a une petite info concernant OpenAI, Anthony, Eric.
Oui, absolument. En fait, il y avait un petit doute. On sait qu'ils travaillent énormément sur l'IA, que ça va être le gros des annonces de la WWDC, et qu'ils sont très attendus sur ce sujet, évidemment, parce qu'ils ont pris quand même un gros coup de retard. Et donc, on sait que, comme ils sont un peu en difficulté sur ce sujet, même s'ils ont des projets en interne, un projet qui s'appelle Grey Matter notamment, ils ont discuté avec des acteurs tiers, Google d'un côté, et puis OpenAI de l'autre. Ça fait presque un an qu'ils discutent, visiblement. Et donc, visiblement, c'est avec OpenAI que le partenariat se ferait. Alors, on n'a pas tous les détails, évidemment. On ne sait pas quelle forme précisément ça prendra. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura beaucoup d'intelligence artificielle dans la nouvelle version d'iOS et que ça s'intégrera probablement, ça intégrera en tout cas des fonctionnalités ChatGPT-esque, j'allais dire, en tout cas, générées par OpenAI. On a quelques exemples de ce que ça pourrait donner dans la nouvelle version d'iOS. Donc, ça va être, par exemple, des résumés de texte automatiques quand tu veux lire un article. Ça va être de la génération des suggestions de fin de phrase quand tu commences à écrire un message. Pas seulement le mot suivant, mais on va te proposer carrément une phrase, voire un paragraphe. Même chose quand tu reçois un mail, on va te suggérer des réponses au mail. Des fonctionnalités qui peuvent se rapprocher un petit peu de ce qu'on peut voir du côté de Copilot, par exemple. Il y aurait tout cet arsenal technologique, en fait, cet écosystème qui serait mis en place. Des choses un peu plus rigolotes aussi. On a par exemple la génération d'emojis personnalisés. Alors ça, je trouve ça génial. Enfin, on verra quelle forme ça prend, mais je trouve que c'est rigolo sur le principe. Donc, tu écris un petit message.
Et le message va comprendre ce que tu dis et va te créer un emoji.
Exactement. Ça, c'est pas mal.
En phase, ça peut être rigolo. C'est original.
C'est marrant. Puis je pense que c'est aussi un moyen pour eux de distinguer encore plus iMessage de leur propre messagerie de ce qui se passe dans le monde Android qui est complètement séparé. Donc là, je pense que ça sera réservé juste aux gens qui ont des iPhones.
Exactement.
Je reviens sur une info que tu nous as donnée tout à l'heure. Il paraît qu'effectivement, Apple travaillerait avec OpenAI depuis un an. Donc, pour essayer d'intégrer effectivement le mieux possible ChatGPT dans toutes les fonctionnalités iOS. Et c'est rigolo parce que Microsoft ne voit pas ça forcément d'un bon œil, parce que effectivement, Microsoft et Apple sont concurrents sur plein de segments. Malgré tout, OpenAI vit un petit peu sa vie. Sam Altman a rencontré Tim Cook, etc., pour faire avancer ce truc-là. Et je trouve assez intéressant de voir que malgré tout, il est important pour OpenAI d'avoir comme client Apple, même si ça énerve Microsoft, qui leur a donné 12 milliards. C'est intéressant.
Oui, c'est sûr. Mais après, il faut voir que Microsoft, il va y gagner quand même, parce que l'infrastructure d'OpenAI est quand même sur du cloud Microsoft.
Oui. Je pense que le chèque d'Apple va être sympa.
Oui, je pense que le chèque doit être assez sympa. Et puis c'est aussi quand même une victoire. On sait pas ce qui s'est passé entre Microsoft et OpenAI et Apple et Google et Apple. Mm-hmm. Mais c'est quand même aussi une victoire pour Microsoft parce que Google essaye d'avancer. Alors ils ont pris eux aussi du retard face à OpenAI, mais le fait que Apple ait choisi OpenAI, c'est que ça veut dire aussi peut-être quelque chose d'un point de vue performance, d'un point de vue technologique tout simplement.
Clairement. Puis Microsoft, ils font plus de téléphones. Je veux dire, il n'y a plus la concurrence, si tu veux, elle se fait plus vraiment à ce niveau-là. Donc, moi, je le verrais, du point de vue de Microsoft, je verrais ça comme tu le disais. Hein, comme une opportunité business. Et puis, ils vont faire grossir leur investissement dans OpenAI. Les milliards qu'ils ont mis au départ, ils se sont démultipliés avec la valorisation d'OpenAI qui explose. Et un gros contrat avec Apple, ça va encore donner plus de valeur à OpenAI, clairement.
On parle de Siri aussi, parce que Siri est un peu à la traîne. Il semblerait que Siri pourrait être boosté en fait grâce à ChatGPT.
Alors je ne sais pas on ne sait pas trop si ça va être via ChatGPT ou plutôt les propres modèles que crée Apple. Ce que tu en parlais au début, il y a effectivement toute la pile avec OpenAI, mais Apple travaille lui aussi sur ses propres modèles et ses propres réseaux, sa propre IA pour ne pas forcément dépendre que d'OpenAI et de Microsoft. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que ChatGPT, OpenAI, ça fonctionne via le cloud. On sait que Apple, ils ont quelques petits problèmes avec ce genre de technologie, puisque en fait les données de leurs utilisateurs sont envoyées. On ne sait pas trop, eux ne savent pas trop ce qui en est fait. Et donc Apple réfléchit aussi à d'autres modèles plus respectueux de la vie privée, puisque c'est en gros leur point fort, leur argument commercial, de dire que effectivement les iPhones sont plus respectueux de la vie privée que d'autres marques de téléphones.
Et donc du coup là, ce qu'on croit comprendre, c'est qu'il y aurait une partie de l'IA qui serait gérée en local les puces de l'iPhone, et il y aurait une partie qui serait gérée dans le cloud. Et de ce qui semble transpirer de ce qu'on a lu, en gros il y aurait des serveurs avec une black box Apple dédiée où les données utilisateurs seraient stockées et qui n'en sortiraient pas. Là encore, l'idée étant d'avoir un argument commercial pour dire aux utilisateurs, nous, contrairement à nos concurrents, vos données, ce n'est pas notre business. En fait, ce n'est pas là-dessus qu'on gagne de l'argent. Donc là aussi, ils sont en train de mettre en place sorte de différenciation par rapport à leurs concurrents. Ça, c'est important aussi.
Et je suis persuadé qu'ils le communiqueront là-dessus lors de la WWDC parce que c'est vraiment un peu la colonne vertébrale de tous les services d'Apple, la sécurité, la vie privée, etc. Même si de temps en temps, il y a des petits coups de canif quand même, on s'en rend compte, mais c'est vrai que ça va être important de rassurer là les utilisateurs avec tout ça. Juste une chose, c'est intéressant parce qu'on disait qu'Apple donc serait sur le point de signer avec OpenAI, c'est peut-être déjà d'ailleurs le cas, on verra bien le 10 juin lors de la WWDC, mais c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'il y a des forces qui vont s'opposer. Samsung, Google, parce que Samsung, le Galaxy S24, c'est vraiment le Gemini de Google, il n'y a pas du tout d'OpenAI. Et d'autre côté, Apple, l'iPhone et OpenAI. Donc,
c'est vrai.
C'est peut-être aussi pour ça que Apple a choisi OpenAI, parce qu'il n'avait peut-être pas envie de partager des fonctionnalités avec Samsung, qui est là son pire rival quand même.
Ouais, tu as tout à fait raison. Et puis, il y a peut-être aussi un souci d'efficacité. On va reparler de Gemini tout à l'heure. C'est pas toujours au point, Gemini. Donc, j'imagine que jouer la carte OpenAI, c'était aussi d'une certaine manière jouer la carte de la sécurité. Mais je pense que non, tu as absolument raison sur le fait qu'ils voulaient aussi créer un écosystème concurrent et jouer cette carte-là et pas donner des gages et une opportunité business supplémentaire à celui qui est leur plus grand concurrent dans les grands groupes technologiques, très clairement. Tu disais tout à l'heure que ça chauffait en ce moment un peu à Cupertino, probablement avec cette WWDC. Je suis complètement d'accord avec ça aussi.
La cocotte minute, là, ça doit être...
Bah, d'autant plus que là, de ce qu'on comprend, ça va quand même être la plus grosse refonte d'iOS, de l'histoire d'iOS en fait. Vraiment, on attend un truc qui est massif et j'allais dire, peut-être pour la première fois depuis la sortie de l'iPhone, c'est la keynote software qui est peut-être un peu plus enthousiasmante ou excitante que la keynote hardware iPhone en fait. Parce que là, il va y avoir tellement de nouveautés sur ce qu'il y a à l'intérieur de nos téléphones moi, à titre personnel, en tout cas, tu vois, j'attends plus ces annonces-là que les annonces de l'iPhone 16, où je ne suis pas forcément convaincu qu'il y aura des nouveautés révolutionnaires. Ça, c'est intéressant. C'est la première fois depuis 15 ans.
L'iPhone 16 sera l'écran de toutes ces fonctionnalités. C'est peut-être pour ça que, d'ailleurs, il sera peut-être intéressant parce qu'on verra justement comment ça marche au quotidien avec l'iPhone 16. Mais gageons aussi que le 15 aura une mise à jour iOS 18 avec ses fonctionnalités.
Oui, on espère en tout cas. Il y a toujours un petit truc en plus. Il y aura forcément un petit truc en plus sur l'iPhone 16. Moi, il y a aussi quand même, juste pour les fonctions, en fait, on a parlé beaucoup de Google versus Apple. En fait, il y a aussi beaucoup de fonctions dont Gurman parle dans son article qui sont en fait on peut appeler ça du moi aussi, quoi. Il y a aussi beaucoup de fonctions qui existent déjà et depuis longtemps sur Android, par exemple la gomme magique ou l'équivalent ce petit outil qui vous permet de faire disparaître quelque chose d'un site ou d'une photo, ça existe déjà. Tout comme il y a une autre fonction qui est très pratique, enfin que les journalistes utilisent beaucoup, notamment c'est cet enregistreur qui transcrit automatiquement. Ce qui est dit dans une réunion ou dans un entretien,
les
étudiants
après.
Aussi qui s'en parlent beaucoup, ça devrait arriver aussi sur iOS et c'est quelque chose déjà qui existe sur Android. Donc
il y a l'équivalent de Google Lens qui va arriver.
L'équivalent de Google Lens, c'est vrai que dans cette bataille Google-Apple, c'est vrai que on peut comprendre aussi qu'Apple préfère travailler avec des concurrents de Google, Google qui a déjà implémenté sur ses téléphones et sur pas que ses téléphones d'ailleurs, sur tous les téléphones Android, bon nombre de fonctions IA.
Mais t'inquiète qu'ils arriveront à le présenter dans la keynote comme un truc qu'eux ont inventé.
Oui,
tu vas avoir le gomme magique et ils vont appeler ça le Amazing Eraser et ils vont dire vous avez jamais vu ça, c'est incroyable.
Ouais. Tiens, en parlant de gomme magique, intéressant, belle transition, merci Anthony.
Avec plaisir.
Je sais pas si vous avez suivi cette petite polémique qui est née en France d'ailleurs, c'est intéressant. Il y a en fait des associations qui regroupent à la fois les médias, un peu comme nous, des médias qui font de l'information sur Internet, mais aussi les boîtes marketing, les publicitaires, qui ont envoyé une lettre à Tim Cook, lui demandant de retirer une fonctionnalité qui devrait arriver dans iOS 18, qui est la gomme magique, et qui pourrait mettre à mal, et peut-être même faire péricliter le modèle économique de ces sites qui vivent de la publicité, parce que, en gros, d'après ce que j'ai compris, on verra lors de la WWDC, mais quand vous êtes sur un site web et que vous avez de la publicité qui s'affiche, avec cette fonctionnalité d'IA, vous allez pouvoir, avec le doigt, en fait, effacer la pub.
Non.
Et la prochaine fois, lorsque vous vous connecterez sur le même site, eh bien, il n'y aura plus la bannière qui s'affichera parce que en fait, l'IA se souviendra que vous avez déjà effacé de la pub sur ce site.
La gomme magique de pub.
La gomme magique, mais c'est la gomme horrible pour le business en fait des sites qui vivent de la publicité.
Ah bah c'est sûr.
C'est terrible. Déjà, ils se prennent de plein fouet les bloqueurs de pub, hein, sur les PC, les Mac, etc. C'est vrai que sur l'iPhone, c'est un peu plus compliqué parce que bon voilà, on n'a pas toujours envie d'installer une appli de blocage de pub, etc. Mais là, en plus, si c'est intégré à l'iPhone directement dans iOS 18, c'est chaud. Et donc, petite tension supplémentaire concernant un modèle économique fragile, celui de la presse gratuite en ligne, quoi.
C'est ça.
On a hâte de voir ça en fait. J'ai hâte de voir comment ça va marcher cette fonction. Et si effectivement, comment ils vont le présenter aussi. Parce que. Mais c'est vrai qu'Apple a tendance à dire voilà, ce qui compte pour nous, c'est avant tout, c'est nos utilisateurs. Et non, effectivement, l'économie du web. Voilà, ça a été déjà le même problème avec les trackers qui ont été supprimés. Enfin, en tout cas, on a le choix à chaque fois qu'on installe une application d'être traqué ou non. Et ça avait déjà provoqué un séisme dans l'industrie de la pub. Hein.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit que derrière tout ça, c'est peut-être un peu pernicieux ce que fait Apple. C'est que sur le navigateur Safari, un site web n'a plus de pub, il va être obligé de créer une appli. Parce qu'en passant par une appli, peut-être que cette gomme magique ne marchera plus et qu'il sera un petit peu dans son... un peu chez lui. Donc ça pousserait aussi les éditeurs à sortir des applis supplémentaires pour échapper peut-être à cette fonctionnalité. Ouais. Enfin voilà, on va voir comment ça va se passer.
Ouais, il faut voir comment ça se matérialise. Après, je suis même pas certain en fait que les gens utilisent massivement. Autant un adblocker, c'est un truc, tu l'installes une fois puis après t'as plus rien à faire. Mm-hmm. Autant la gomme magique, ça te demande quand même de réaliser une action quand tu vois la pub apparaître. Bon, je sais pas, est-ce que les gens ont vraiment envie de supprimer la pub ou est-ce que ils feront avec et puis ils scrolleront quoi. Faut voir comment ça se matérialise concrètement. En tout cas, l'idée
c'est
intéressant
et panique chez les éditeurs en ce moment, c'est moi qui vous le dis. Dans l'actu aussi vente panique chez Google avec cette fonctionnalité Overview, rappelons que c'est une nouvelle fonction qui est arrivée dans le moteur de recherche et qui vous permet, je crois que c'est qu'aux États-Unis pour l'instant. Et qui vous permet d'avoir une recherche générée par l'IA et qui se veut de meilleure qualité. Sauf que, bien sûr, il y a des petits malins qui se sont amusés à faire des recherches un peu, comment dire...
Ouais, qui ont testé les limites du modèle,
on va dire. Du truc, comme... et ils ont touché, quoi.
Oui, mais ils n'ont pas eu trop de mal.
C'est pas difficile.
Très compliqué, parce que, en gros, tu fais une recherche Google normale, et l'IA, enfin, Overview, te donnait des réponses qui étaient complètement what the fuck, quoi, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, je sais pas, par exemple, dans les questions requêtes Google, c'était fumer en étant enceinte. Bon, c'est un truc que tu peux taper dans Google, effectivement, pour avoir des conseils santé et tout ça.
Et combien de cigarettes par jour je dois fumer par exemple.
Tu vois, si la question avait été ça, à la limite, j'aurais pu dire les mecs cherchent un peu. Mais là, c'était juste, fumer en étant enceinte. Et l'IA te fait le petit résumé en haut de la page. Il est recommandé de fumer 2 à 3 cigarettes par jour pendant la grossesse.
Waouh.
Voilà, donc c'est un peu chaud, tu vois.
C'est violent. Alors,
je te donne quelques autres exemples avant qu'on en discute. Hein. Donc, si tu lui demandes... Alors, il y avait des conseils
culinaires sur la pizza,
ouais. Alors qu'il faut mettre de la colle sur la pizza pour rendre le fromage plus collant.
Pour la mozzarella,
c'est vrai que ça fait un petit effet sticky, là, assez sympa.
Ouais, c'est sympa, ouais.
On te dit aussi...
Ça doit avoir bon goût, en plus.
Oui, en plus. Alors, toujours dans les conseils culinaires, il y avait le fait de manger des cailloux aussi. Oui, on te conseille de manger... Alors, c'est les géologues de l'université de Berkeley, nous dit l'intelligence artificielle, qui te conseille de manger un petit caillou par jour, pas plus, un petit caillou par jour.
Ça fait bien en fait, ce qui est la digestion.
Voilà. Je prends juste cet exemple. En fait, cet exemple est incroyable parce que là, on voit aussi les limites de ce genre de truc. En fait, cet exemple, pourquoi Google répond ça à cette question ? Pourquoi l'histoire de caillou ? C'est parce que le site The Onion, qui est en fait l'équivalent américain du Gorafi, a fait des tonnes d'articles de ce genre où ils expliquent notamment qu'il y a des scientifiques qui conseillent de manger 3 cailloux. Et en fait, Google l'a aspiré comme plein d'autres sites les informations de The Onion qui sont absolument pas fiables du coup.
Oui, c'est justement moins c'est fiable, plus c'est drôle
on se retrouve avec ce genre de réponse parce que en fait l'intelligence artificielle n'est pas assez intelligente pour savoir que The Onion est un site parodique dont il faut pas spécialement suivre les conseils.
Non mais c'est bizarre que les robots de Google scannent ce site là
parce que franchement c'est délirant de se dire que une IA du niveau niveau de celle de Google ne soient pas capables de lire le second degré, ce que font les autres IA quand elles vont piocher dans les données. Quand tu fais une requête, que tu poses une question à ChatGPT, normalement, il fait la différence, il te raconte... Alors, des fois, il raconte n'importe quoi, oui, mais normalement, dans les sources dans lesquelles il va chercher, il est capable de faire la différence entre une publication scientifique et un article parodique. Et l'IA est même capable elle-même de faire du second degré. Quand tu prends l'IA Grok, par exemple, celle d'Elon Musk, elle te répond en faisant du sarcasme, du second degré, voire du troisième degré, parfois en répondant au second degré à une... Enfin, c'est vraiment, pour le coup, tu te dis, Google doit être capable de faire la même chose. Et pour moi, en fait, là, ce dysfonctionnement, il pose une question qui est plus fondamentale, c'est est-ce que Google n'est pas dans la précipitation à sortir des produits qui sont mal testés, pas complètement aboutis, parce qu'ils sont dans la peur panique de prendre un coup de retard supplémentaire face à la concurrence, quoi. Et tu te dis, ça, franchement, ils auraient pas dû le mettre sur le marché.
Bien sûr, c'est clair. Et effectivement, c'est complètement ça. Je pense qu'ils sont vraiment, ils ont vraiment très peur de voir quelqu'un débouler. Ça peut être OpenAI avec un nouveau moteur de recherche, ça peut être quelqu'un d'autre. Tout à coup, que tout le monde switch vers un autre moteur qui, du coup, tuerait complètement leur business. Et effectivement, clairement, il y a de la précipitation. C'est évident. Et il y a tellement eu de problèmes sur cette fonction qui est sortie il y a quelques jours, franchement, qu'on se demande vraiment. Et je trouve en plus leur réaction est un peu bizarre, parce qu'ils disent oui, mais en fait, ça concerne que très peu de requêtes. Hein, alors, c'est comme ça qu'ils se défendent. Ils disent ça n'a concerné que très peu de requêtes, et c'est pas très grave. Et on va les supprimer à la main. C'est-à-dire, ils ont quand même parlé de suppression à la main des requêtes problématiques.
Alors, des gars, alors, voilà.
Encore un con qui a posé une question débile.
Et surtout, c'est quasiment impossible à faire, puisque par définition, une AI va générer un texte en fonction d'une question précise, et il est très compliqué de savoir exactement quelles questions vont amener quelles réponses. Donc, je trouve leur réaction étrange. Ils disent aussi, par ailleurs, qu'ils disent que certaines des captures qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux avaient été trafiqués, et que c'était pas vrai, que machin, d'accord, et qu'ils n'avaient pas pu, eux, de leur côté, retrouver ce même genre de message. C'est quand même compliqué, et ça montre en effet qu'ils sont pas tout à fait prêts, je pense, à lancer un truc aussi puissant, on va dire.
Je sais pas si vous avez vu, il y a eu une publication assez intéressante d'un ancien salarié de Google, justement sur ce côté, ils ont peur d'être en retard et donc ils font n'importe quoi. Et le mec dit, moi j'ai l'impression, quand je regarde la stratégie de Google sur l'intelligence artificielle, de me retrouver à l'époque de Google Plus. Je sais pas si vous souvenez Google Plus.
C'est pas cool.
C'était non mais c'est vrai. Mais je trouve que le parallèle est hyper intéressant. Google Plus, c'était, pour ceux qui se souviennent pas, c'était la riposte de Google à Facebook à l'époque, où visiblement ils étaient pareil, ils étaient oh là là, mais on va se faire dépasser par les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ils avaient sorti leur alternative, mais qui était un peu ratée très clairement, et qui a jamais pris, et donc qui a fini au cimetière de la tech. Et en fait, le gars dit, en fait là sur l'IA, ils font exactement la même chose. Les gars, ils sont la tête dans le guidon, ils voient les annonces d'OpenAI, de Microsoft, de Meta et de tout le monde, et donc ils sortent des trucs précipitamment. Et un autre exemple de ça, alors c'est les images qu'on voit derrière nous, pour ceux qui nous regardent, c'était incroyable aussi il y a quelques mois, parce qu'on oublie vite parce que ça va très très vite dans l'IA, mais c'était, vous vous souvenez, la version Gemini Image, qui était la riposte à Midjourney, Dali, etc. Donc un générateur d'images, et qui restait en ligne, je sais pas, quelques jours, même peut-être quelques heures, parce que on s'est rendu compte que cette IA était ultra woke. En gros, elle était vraiment marquée idéologiquement, et que elle réécrivait l'histoire. C'est-à-dire que quand tu lui demandais de te faire un Viking, par exemple, ou un roi de France, ou un soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale, elle te représentait des personnes noires, métisses, asiatiques, mais jamais un blanc. Donc les blancs n'existaient plus, ce qui était quand même un peu problématique. On sait que les grands groupes technologiques sont globalement très progressiste, démocrate, machin. Enfin là, c'était quand même pousser le politiquement correct et le wokisme à l'absurde,
oui,
absolument.
Absurde, mais
et donc
évidemment,
du coup, face au tollé, ils avaient dû carrément supprimer. D'ailleurs, la fonctionnalité n'est toujours pas revenue à cette heure-ci. Et donc là encore, ça montre bien que c'était un produit qui n'avait pas été suffisamment testé. C'est des trucs qui, normalement, ça doit se voir très rapidement quand tu fais des tests. Les mecs qui font les tests, ils doivent être comme les internautes les plus déglingos. Ils doivent tester des trucs complètement fous et voir ce que ça donne. Et là, visiblement, ça n'avait pas été fait, quoi.
Bon, Pas facile, hein. Pour Google, les temps sont durs, hein, quand même.
Ben ouais.
Mais bon, c'est comme ça.
Oui, après, je pense que, bon, il faut... Ça m'étonnerait, c'est quand même, ils ont aussi une espèce de fierté, c'est-à-dire que c'est quand même eux, c'est grâce à eux que tout ça existe. Grâce aux technologies qui ont été créées chez eux. Donc forcément, il y a un petit côté... Un petit côté... voilà, c'est difficile, je pense, aussi pour eux de...
avaler, hein, comme un caillou.
Comme un caillou.
Comme ça, au moins, la boucle est bouclée.
Voilà, parfait.
Allez.
Il est fort quand même, le métier. Hein.
Bravo.
Ah, là, c'est là que tu vas, bravo.
Ne me jetez pas la pierre.
Pierre, ouais.
iFixit.
Ah oui.
Très sympa, cette boîte.
Tu dis iFixit, toi ?
iFixit.
Moi, je dis iFixit, mais je ne sais pas, non, mais les deux se disent. Ouais, en France, t'as raison.
Entre OpenAI, OpenIA.
Ouais, moi, je ne sais jamais. Non. Mistral AI, je ne sais jamais non plus. Comme, comme ils sont français, en plus.
Mais comme ils ont des investisseurs étrangers.
C'est compliqué.
C'est plus trop, en fait.
Non, mais c'est vrai.
C'est la pagaille. Donc, iFixit, qui est une boîte très sympa, d'ailleurs, au demeurant, qui existe depuis pas mal de temps. Hein. On a tous vu des vidéos de spécialistes d'iFixit qui démontaient des téléphones, des tablettes, des choses comme ça. Enfin, c'est leur métier, ils font ça.
Oui.
Et après, pour.
Vendent aussi des outils
voilà,
pour
ça
qu'on
c'est
puisse
leur modèle économique
nous-mêmes le faire. Ouais.
Voilà, ils vendent des petits outils pour démonter les téléphones. C'est leur modèle économique, c'est leur business, et c'est plutôt bien joué. Il se trouve qu'il y a deux ans, ils avaient passé, ou il y a deux ans ou un an, je ne sais plus.
Deux ans,
un accord avec Samsung, puisque Samsung a dit, écoutez, moi, on aimerait bien qu'on passe un partenariat ensemble pour qu'on puisse travailler main dans la main pour essayer que nous, on puisse fabriquer des téléphones qui soient plus facilement réparables. Parce qu'on a oublié de dire qu'à chaque fois qu'un nouveau téléphone sort, il passe sous les fourches codines de iFixit et après, il le note. Il dit, ce téléphone est indémontable ou alors il y a plutôt un effort, etc. etc. Ça, c'était le début. Sauf que il y a eu un petit changement. Visiblement, iFixit jette l'éponge.
Ouais, ils claquent la porte. Ils disent, non, en fait, on veut plus travailler avec Samsung parce qu'il y a un trop grand décalage entre leurs paroles et leurs actes, entre leur communication sur la réparabilité, le fait que oui, on veut tout faire pour que l'utilisateur final puisse changer les pièces lui-même, bricoler son téléphone. Et donc, c'était un peu ça, le sens du partenariat avec iFixit. C'était le signal qui voulait être envoyé. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. Hein. Apple fait la même chose. Enfin, tous les fabricants sont dans ce discours-là, aujourd'hui, très, très green. Sauf que lorsqu'on regarde ce qui se passe réellement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a eu une investigation d'un média en ligne américain qui s'appelle 404 Media, que je ne connaissais pas, moi, mais donc qui a fait une enquête assez approfondie sur la façon dont Samsung interagit avec les réparateurs indépendants notamment, et qui explique que Samsung en réalité fait tout pour dissuader les réparateurs indépendants de réparer les téléphones, et en gros les utilisateurs de réparer leur téléphone avec des choses du genre, par exemple, si un réparateur indépendant commence à réparer un téléphone et qu'il se rend compte qu'il y a une pièce dans le téléphone qui est une pièce qui est non officielle Samsung, eh bien à ce moment-là, il doit démonter complètement le téléphone et le remplacer. Donc on est aux antipodes en fait du discours officiel, si tu veux, sur la réparation. Donc voilà. C'est toujours intéressant de voir effectivement ce décalage, ce double discours. On parlait la semaine dernière.
C'est très joli pendant les keynotes.
Oui, c'est bon. Clairement, c'est vrai qu'on aurait pu y croire il y a deux ans. Je me rappelle que j'avais un peu célébré ça en disant peut-être que c'était quand même le numéro 1 du smartphone ou le numéro 2 Samsung. On pouvait se dire, est-ce que ça va pas lancer quelque chose pour qu'on puisse nous-mêmes réparer nos téléphones puisque le plus gros s'y met. Et en fait, c'était vraiment de la com et c'est un petit peu énervant puisque iFixit, il y a quelques exemples. Effectivement, il y a eu cette enquête qui est séparée d'ailleurs du problème d'iFixit, hein, même si je pense qu'ils ont dû aussi avoir ce genre de retour à iFixit. Mais par exemple, un exemple concret pour Samsung, c'est que vous voulez changer un écran qui est quand même sur un S23 ou un S24, qui est quand même la chose qui a la plus grande chance de casser, on va dire, dans un téléphone. Eh bien, vous ne pouvez pas changer l'écran tout seul. Il faut que vous achetiez un écran, mais avec la batterie qui va avec, tous les boutons. Donc, du coup, ça vous coûte un prix.
Vous avez la moitié du téléphone,
voilà,
quoi.
Qui est beaucoup trop élevé, en fait, alors qu'en fait, il suffirait de remplacer l'écran. Mais en fait, toutes les marques de téléphone, Samsung en tête, mais Apple de la même manière, n'aiment pas trop qu'on trifouille dans leur matériel. Alors en plus, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Je veux dire, c'est vrai que iFixit fait des tutos pour qu'on puisse démonter
ce téléphone. C'est pas donné à tout le monde. Hein.
Il faut quand même être très précis.
Sony, franchement, moi, je suis pas capable de faire
non,
ça.
Non, moi non plus.
Ouais,
moi
il faut faire très attention. Mais ils aiment pas parce que effectivement, ils préfèrent que l'on passe par leur propre réseau de réparation et que les pièces, en l'occurrence, soient, on va dire, vraiment validées.
Officielles, validées.
Comme les concessionnaires auto.
Mais c'était ce que proposait iFixit, enfin ce que proposait iFixit avec le deal avec Samsung. Et c'est un peu dommage qu'on en soit arrivé là, quoi.
Mais tu as raison de rappeler que ce n'est pas les seuls à le faire. On parlait il y a 15 jours, 3 semaines d'Apple, hein, même chose. On s'était rendu compte que derrière le discours sur le recyclage des téléphones, avec leur jolie vidéo avec les robots Daisy, et je ne sais plus comment ils s'appellent, qui recyclent les téléphones, en fait, c'est une fraction en fait, des iPhones qui sont réellement recyclés.
On a l'impression que c'est la vitrine un peu du recyclage, mais
c'est
derrière.
Ça. Et en fait, beaucoup sont détruits purement et simplement. Et
alors
très
qu'ils
peu
sont fonctionnels.
Alors qu'ils sont fonctionnels pour
beaucoup
d'entre
eux. Il y a eu un scandale, on en avait parlé d'ailleurs.
Oui, parce que certains d'entre eux avaient été détournés par la société sous-traitante qui était censée en fait recycler les téléphones. Et donc Apple a dit, bon, finalement, on va tout détruire, ce sera plus simple. Mais du coup, en fait, il y a des centaines de milliers de téléphones qui sont fonctionnels.
Quand on sait qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, enfin, c'est ça qui est terrible, en fait.
Ouais, puis il y a des matériaux qui...
Les téléphones pour avoir encore 2-3 ans de durée de vie.
Exactement.
Apple pourrait les donner, peut-être pas les donner directement, mais à des associations qui, après, pourraient les distribuer. Enfin,
ou à minima récupérer les pièces détachées.
Non, mais c'est une hérésie de les détruire, même écologiquement.
C'est complètement dingue.
L'hérésie écologique, c'est une chose, mais moi, ce qui m'énerve, c'est toujours les doubles discours. C'est-à-dire, quand tu vois les keynotes, c'est exactement ce que tu disais. Dans toutes les keynotes, maintenant, il y a tout un paragraphe. Une louche de 10 minutes, et voilà, formidable, mère nature, machin. Bon, bah voilà, soyez au moins derrière un minimum cohérent, quoi. C'est juste ça.
Il nous reste quelques minutes, j'aimerais parler aussi d'une petite révolution qui est en train de se tramer dans le monde du PC. Eric suit bien tout ça, donc tu vas pouvoir nous expliquer. C'est en fait une nouvelle génération de PC avec Windows. Donc, vous savez que Windows commence à implémenter les fonctions d'intelligence artificielle avec Copilot, à la fois dans Office 365, mais aussi dans Windows, dans le système d'exploitation. Et pour que tout ça marche très bien, en fait, il faut une nouvelle génération de processeurs. Et là, c'est quand même historique ce qu'on est en train de vivre. C'est que Qualcomm, avec tous les constructeurs de PC, parce que tous se lancent dans la bataille, Qualcomm va sortir des PC sous Windows 11, avec donc le label Copilot, donc cette intelligence artificielle. Et franchement, moi je trouve ça très intéressant parce que c'est la fin du règne sans partage d'Intel qui laissait quelques petites miettes à AMD, mais là d'un coup le loup entre dans la bergerie et il s'appelle Qualcomm.
Oui. C'est vrai que ça peut avoir de grosses répercussions sur le marché du PC. Effectivement, c'est une nouvelle, non seulement une Qualcomm qui arrive, mais c'est aussi une nouvelle architecture qui arrive, qui est d'ailleurs l'architecture ARM, hein, celle qu'on connaît déjà sur les Mac. En fait, c'est une réponse aussi à ce que fait Apple sur ses Mac et qui a montré que ça marchait bien, puisqu'on a une autonomie incroyable sur les Mac aujourd'hui. Effectivement, ça va changer peut-être beaucoup de choses dans le secteur du PC. Ces PC, Microsoft, ils ne savent pas faire de naming. C'est un truc, hein, ils ne savent pas comment appeler des choses. Donc, ils ont appelé ça Copilot plus PC. Donc ces PC-là, ça vont s'appeler Copilot plus PC.
Tout le monde va s'en souvenir.
Tout le monde va s'en souvenir, je pense. C'est mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'en fait, c'est des PC Copilot plus PC. C'est-à-dire qu'on met Copilot avant le PC quand même. C'est pas des PC avec Copilot, c'est Copilot d'abord et ensuite le PC. Et bon, et en fait, effectivement, ces ordinateurs disposent de puces Qualcomm. Alors ils sortent là en mois de juin, à partir du mois de juin, mais ça va monter en puissance jusqu'à la rentrée là.
Et à Vivatec, on a pu voir les premiers, c'est
et
ça.
Et à Vivatec, il y en avait, ouais, il y avait notamment, alors les premiers à avoir tiré, évidemment, c'est Microsoft. Microsoft a présenté ses nouvelles tablettes Surface il y a quelques jours là, et donc parmi les premiers ordinateurs de cette génération Copilot plus PC, il y a évidemment du Microsoft Surface qui était à Vivatec, et on a pu discuter un petit peu avec des responsables de produits et essayer aussi ces nouvelles fonctions. Parce que c'est un peu compliqué. Alors déjà, on a parlé aussi à des chefs produits qui nous disaient on ne sait pas comment on va marketer ça, parce qu'en fait, ça ressemble, je ne sais pas si vous vous souvenez de Windows RT et tout ça, ça ressemble à Windows classique, mais c'est un autre processeur. Et donc, c'est difficile pour les consommateurs de s'y retrouver. C'est pas du Intel, c'est du Qualcomm. Alors, c'est la même marque que ce qu'on trouve dans les téléphones. Mais effectivement...
Donc, il y a des incompatibilités.
Alors, il y en a un peu, ouais.
Ils vont pallier avec une... En fait, une... Comment on appelle ça ?
Avec de l'émulation.
L'émulation, voilà. C'est ça.
Mais il y en a.
Comme l'a fait Mac avec Rosetta.
Exactement. Mais en fait, la grosse différence, c'est que sur Windows, il y a énormément de logiciels, il y a beaucoup de choses différentes, beaucoup de pilotes. Alors, franchement, par rapport à ce qu'on a vécu avant, parce que ça fait longtemps que Microsoft essaye de faire du ARM, ça ne marchait pas très bien. Ils ont fait beaucoup d'efforts et là, la plupart des logiciels marcheront très très bien, voire même parfois mieux que sous Intel s'ils sont recompilés. Pour ces ordinateurs-là, parce qu'ils sont très efficaces d'un point de vue performance et surtout en matière d'économie d'énergie. Mais en revanche, il y a des choses qui ne marcheront pas très bien. Par exemple, certains pilotes qui ne vont pas fonctionner, ou alors pour les joueurs, ça peut leur poser problème, des anti-cheats, des logiciels qui sont installés quand vous installez un jeu, en même temps que le jeu, pour voir si vous trichez pas. Tout ça, ça doit atteindre un certain niveau du processeur qui n'est pas aujourd'hui compatible avec ces ordinateurs-là.
Oui, mais c'est donc une question de temps, non, Eric ?
C'est une question de temps.
Si ça marche, parce qu'il faut que ça marche.
Voilà,
parce les développeurs, après, s'intéresseront
évidemment,
à ces nouvelles structures.
Évidemment. En fait. Et puis, c'est assez facile pour un développeur d'adapter son logiciel à ces nouveaux ordinateurs. Ce qui est intéressant, je pense, pour le client, mais ça, c'est pas du tout pour les consommateurs, mais c'est pas du tout ce que met Microsoft en avant, c'est que c'est des ordinateurs qui ont surtout une bien meilleure autonomie que les ordinateurs actuels. Logiquement, ils devraient faire même mieux, on a vu certains benchmarks arriver, faire même mieux que les Mac actuels pour certains des modèles. Donc c'est vraiment très très bien. En revanche, effectivement, y a aussi Microsoft préfère évoquer les nouvelles fonctions que ces ordinateurs, dont ces ordinateurs disposent. Parce que ce qui les intéresse avant tout, c'est de dire que c'est des ordinateurs IA. Des ordinateurs qui ont une IA intégrée, quoi. Et effectivement, cette puce a ce qu'on appelle un NPU, ce qui existe aussi sur les téléphones, mais un NPU puissant qui vous permet donc d'utiliser des IA en local, donc sans accès au cloud. Et Microsoft a déjà intégré plusieurs de ces fonctions IA dans la version de Windows qui va sortir et qui sera adaptée à ces ordinateurs.
Et avec la petite touche copilote, évidemment.
Et la petite touche copilote. Et il y aura notamment une fonction qui s'appelle Recall. Et Recall vous permet...
Qui a été assez décrié, d'ailleurs. Hein.
Oui, parce que ça peut être
Elon
un peu
Musk
flippant.
C'est Elon Musk qui a gueulé là-dessus en disant, vous vous rendez compte, on va avoir... une espèce de mouchard pour notre PC.
Ouais. C'est vrai que ça peut être un peu flippant, mais...
Parce que ça te filme, c'est ça, en gros, c'est ça.
Alors, ça prend une capture d'écran tous les 5 secondes, ou tous les 10 secondes, on peut configurer, de ce que vous faites sur votre ordinateur. Donc, si vous êtes en train de regarder vos photos, chaud, vous verrez, vous surfez sur un site, et ensuite, vois, vous pouvez
juste
chercher...
Juste pour améliorer, est-ce que c'est quoi, ça va améliorer quoi, ta navigation derrière, c'est ça ?
Après, tu peux chercher en langage naturel, donc en local, tu peux chercher, rappelle-moi quand j'ai vu cette photo de chien. Et donc là, Recall va te ramener sur la photo que tu as vue avec un chien. Tu vois, c'est un exemple, un exemple parmi tant d'autres. C'est vrai que ça peut être un peu flippant, mais parce que ça, pour le coup, il n'y a pas d'envoi de données dans le cloud. Ça marche grâce au NPU est présent sur la puce.
Ça part
c'est
pas dans le cloud.
Ça part pas dans le cloud.
Dernière question, Eric. Intel va se laisser manger tout cru ou
non,
est-ce qu'ils ont
tout.
Une réponse
non. Intel est déjà en train de. En fait, c'est marrant parce que quasiment le jour même où ces ordinateurs ont été présentés, Intel a présenté lui-même une nouvelle version, une nouvelle génération de puces qui s'appelle Lunar Lake et qui va sortir à la fin de l'année, là, parce que Intel avance aussi bien vite et qui donc veut rattraper son retard en matière de NPU. Intel a été les premiers à lancer des puces, ils ont appelé ça les AI PC, elle a été sortie au début de l'année.
Oui. Ça n'a pas bouleversé le marché.
Non, ça n'a pas bouleversé le marché, mais ils ont quand même un intérêt, c'est qu'ils sont bien plus autonomes. Par contre, ils avaient un tout petit NPU, et là, ils vont lancer une nouvelle génération de puces avec un beaucoup plus gros NPU à la fin de l'année, et donc pour évidemment répondre à Qualcomm. Et on attend aussi ce que va faire Nvidia, parce que Nvidia pourrait s'y mettre aussi, finalement. Mmh. Et puis aussi, on verra ce que fait ARM sur ce secteur. Mais ça va être assez passionnant de suivre le marché du PC dans les mois qui viennent. Complètement.
C'est intéressant. Eh bien, c'était top. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Anthony.
Merci.
Anthony Morel, journaliste à BFM Business tous les matins, sur BFM Business et à la mi-journée sur RMC, RMC Story. Et vous pouvez lire, bien sûr, les tests d'Éric Le Bourlou sur les numériques, et entre autres.
Ouais.
Merci beaucoup, Eric.
Merci
d'être passé. Vous restez avec nous. Deuxième partie de ce de quoi je me mêle dans un instant. On va s'intéresser à Starlink. Voilà, petite révolution de l'Internet en mobilité, l'Internet par satellite d'Elon Musk. C'est Lionel Paris qui nous explique tout ça tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà votre deuxième partie de quoi je mêle. Un grand merci d'être là et de nous écouter régulièrement et d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous télécharger ou à nous regarder à la fois sur BFM Business le week-end mais aussi sur YouTube ou sur l'appli RMC BFM Play. On va maintenant poursuivre l'histoire Starlink avec Lionel Paris qui est avec nous. Salut Lionel.
Bonjour François.
Lionel qui, vous le savez, régulièrement dans De quoi je me mêle vient nous parler de tech et de réseau parce que c'est son kiff et nous aussi on adore ça. Et là en plus on va s'ouvrir un deuxième chapitre concernant Starlink. On en avait parlé il y a un petit peu plus d'un an.
C'est ça.
D'ailleurs vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo. On va revenir sur Starlink parce qu'en un an il s'est passé, mais plein de trucs,
oui,
incroyables, et ça vaut bien une petite mise à jour.
C'est clair, Starlink continue de nous surprendre, et à plusieurs niveaux. On avait parlé ensemble du lancement, puisqu'il y a plus d'un an, on commençait vraiment à en parler, tu avais un nombre de satellites
en
orbite.
Tu pouvais t'acheter le système, etc.
Voilà, c'est ça, ça devenait vraiment quelque chose d'un petit peu plus grand public. Et c'est vrai que là, en un an, ils ont fait des progrès monstres. Si tu veux retenir quelques chiffres, le nombre de satellites en orbite actuellement, il est à cette semaine à 6078. Donc quand on en parlait, on était un petit peu moins de la moitié. On était dans les 3000.
Okay.
Tu as 99 pays couverts. Le dernier en date, c'était il y a une semaine, c'est la République de Fidji, dans le Pacifique Sud. Ils ont 3 millions de clients. Donc, un beau développement en l'espace de 3 ans. En 2024, tu as eu 38 lancements. Attends, on est fin mai. Tu vois ce que je veux dire, pas non plus. Donc, 38 lancements.
Et ce n'est pas 38 satellites. Hein. À chaque fois, c'est plusieurs dizaines.
C'est ça. 23 minimum par batch.
Ouais, c'est
je te
ça.
Laisse faire le calcul. C'est incroyable.
D'ailleurs, Elon Musk en avait parlé. Je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers de satellites à terre, non ?
Le plan d'origine, oui, il était à plusieurs dizaines de milliers.
Alors peut-être que ça a évolué depuis, parce que ça l'a coûté une fortune, évidemment.
Ce qui les sauve et pourquoi ils arrivent à avoir cette cadence, c'est le fait que tu peux réutiliser les roquettes. Hein. Le Falcon 9, effectivement, tu l'envoies, comme on le voit, pour ceux qui nous regardent, les images derrière nous, en 8 minutes, ils ont envoyé les 23 satellites et puis le lanceur, il est retombé, il est redescendu.
Ouais, c'est ça.
Bah ça, c'est imparable.
Ouais. D'ailleurs, c'est comme un ascenseur finalement.
Le disait lui-même à Vivatech la semaine dernière. Très simplement, il disait mais je ne comprends pas. Quand vous prenez votre voiture pour aller au travail, vous la jetez pas. Moi, je fais pareil avec mes
fusées. Donc tout ça dans un contexte évidemment de très haut débit parce que on se dit finalement en France, il y a la fibre, donc. Si on regarde un peu notre nombril, on n'a pas forcément besoin de Starlink.
J'ai envie de te dire quand même, parce que si tu regardes les derniers chiffres de l'ARCEP, au jour d'aujourd'hui, tu n'as que 27 départements en France, enfin il y a toujours 27 départements, 27% des départements, qui ont un taux de couverture fibre qui est entre 50 et 80. Et quand je te dis le taux entre 50 et 80%, ils sont plus près de 50 que du 80, si tu vois ce que je veux dire.
Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont sur le bas-côté de la route, qui sont soit encore en ADSL,
ou qui n'ont pas la chance d'avoir eu un raccordement. Là, je te parle vraiment des raccordements, c'est-à-dire que ce n'est pas les abonnements, c'est-à-dire que c'est l'état du réseau en France. Donc on a 70 départements qui sont à plus de 80%, donc ça c'est très bien. Mais le problème, c'est que tu t'en doutes bien, c'est toutes les zones qui sont très rurales, ils sont un petit peu laissés de côté, et les zones à forte densité sont très bien desservies, et c'est un peu la logique, c'est ceux qui seront plus la densité est faible, moins c'est servi en premier. Donc ce besoin de connectivité alternative, parce qu'on en est là, c'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser la fibre, dans une époque où on a commencé à retirer le cuivre, je le rappelle, le basculement
va être
obligatoire.
On commence petit à petit à déconnecter la DSL.
Cette solution Starlink, finalement, elle commence à avoir du sens, d'un point de vue utilité. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes de débit, c'est loin d'être ridicule, parce que là aussi, ils ont fait des progrès. Il y a le nombre de satellites qui augmente, bien évidemment, tu as la couverture, mais tu as aussi le débit qu'on peut en tirer. Aujourd'hui, ils t'annoncent une vitesse de download qui est compris au minimum entre 50 et 220 mégabits. C'est quand même... C'est loin d'être ridicule.
Oui, c'est du haut débit.
On est sur du haut débit. En upload, tu es forcément moins 10 ans, bien sûr, mais tu t'approches des 20-25 mecs. Donc, on est à peu près au niveau où était de la 4G à une époque.
Ouais. Et puis, rappelons quand même aussi l'avantage de ces satellites en orbite basse, c'est la latence. on se retrouve avec une latence qui est alors qui n'est pas similaire à la fibre, hein, parce que rien ne vaut la fibre, on est d'accord. Mais quand même, on est à quelques dizaines de millisecondes, ce qui est incroyable par rapport aux satellites géostationnaires.
Alors, géostationnaires, oui, là, c'est un autre délire, parce qu'ils sont très très loin, donc le temps qu'ils mettent à arriver, cette techno, elle est dépassée aujourd'hui. Mais ils avaient annoncé au tout démarrage, avant même que ce soit dans les taxes aujourd'hui, ils annonçaient une latence entre 20 et 60. Aujourd'hui, elle a été mesurée. Ils ont fait une annonce, encore une fois, en tout début d'année. Cette année, ils sont très actifs, Starlink. Ils ont réussi à réduire la latence moyenne à 33 millisecondes.
Pas mal.
Et leur plan, c'est d'aller chercher du 20. Et ils ont Alors, pourquoi ils vont y arriver? Parce qu'en fait, ce qui te génère ta latence, si tu veux, c'est la communication avec les satellites en orbite et ce qu'on appelle les gateways, c'est-à-dire c'est les stations terrestres. Qui, elles, sont reliées à un nœud fibre optique. Et, enfin, un nœud.
Parce
Internet.
Que comment ça marche, en fait? Tu as des satellites donc, qui sont à quoi 200, 300 km d'altitude, je
non,
crois.
Non, c'est un petit peu plus. Ils sont entre 450 et 600 okay. en fonction des générations.
Ouais. Donc, ils vont choper l'Internet sur une station.
Ce qu'on appelle une base. Une base station, une station terrestre.
Qui est connectée à la fibre.
Qui est connectée, même c'est au-delà de ça, ils sont connectés à un point de présence des opérateurs.
C'est un point d'accord.
Tu es directement connecté sur voilà. un tuyau Internet.
Là, voilà. là ça booste.
Voilà, ça booste. Ces stations-là, en fait, émettent sur les satellites en basse orbite. Et maintenant, ce qui est nouveau dans ce qui est arrivé l'année dernière et cette année, ces satellites, avant, individuellement, ils faisaient tous des allers-retours. Puisqu'il n'y avait pas de technologie de communication. Il fallait bien qu'ils fassent des allers-retours. Depuis deux générations, ils ont rajouté des lasers dans les satellites. Ces lasers, en fait, vont créer un réseau mesh, ouais. en Wi-Fi, ouais. entre chacun des satellites, et ils vont créer un réseau haut débit entre eux. Ce qui réduit le besoin de communication entre chaque satellite individuel et ses stations terrestres.
C'est incroyable.
Mais alors, là où ça devient très fort, c'est que le débit intersatellitaire, il est entre 100 et 200 gigabits. Je rappelle pour tout le monde que les satellites, ils tournent à 17 000 km/h.
C'est incroyable.
C'est pas anodin. C'est pas quelque chose de fixe.
Donc en fait, il se crée comme un nœud entre chaque satellite ouais. par le laser.
Par le laser.
Il fait qu'ils sont tout le temps connectés les uns entre les autres.
Ils sont tout le temps connectés aux uns aux autres. Alors dans ce backhaul, en fait, tu as à la fois la donnée, mais il y a aussi de l'intelligence. C'est ce qu'ils utilisent aussi pour pas entrer en collision avec eux-mêmes, savoir qui est où, etc. Il y a beaucoup de choses au niveau du backhaul. Mais il y a beaucoup de, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on fait avec les systèmes mesh pour la partie Wi-Fi, avec une base et des satellites. C'est un petit peu le même. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils ont fait entre l'année dernière et cette année.
Et c'est ce qui fait baisser la latence qu'on évoquait.
Ce qui fait baisser la latence, ce qui augmente le débit, ce qui augmente la fiabilité. Je rappelle aujourd'hui, un kit, en plus les prix ont baissé, un kit aujourd'hui coûte 349 €. Donc ça, c'est le prix qu'il faut investir pour avoir l'équipement, donc la parabole terrestre et la box. Bon, malheureusement, c'est toujours en Wi-Fi 5. Alors ça, je ne comprends pas si Elon nous entend.
D'après ce que j'ai compris, il devrait en avoir une nouvelle qui devrait passer en Wi-Fi 6 ou
je sais pas. Voilà, voilà, mais aujourd'hui, la parabole motorisée, le produit de base, il est toujours en Wi-Fi 5. Donc, effectivement, les gens qui utilisent ça derrière, ils mettent d'autres solutions alternatives pour sortir et avoir un routeur ou un système Wi-Fi. Et c'est un coût qui est très correct puisque maintenant, on est à 40 € par mois. Ce n'est plus de la promotion, c'est le coût fixe.
Ouais.
Point barre.
Et pour 40 €, tu as une connexion
Pour quelqu'un qui n'a pas la fibre aujourd'hui et qui est sur de la DSL, c'est une alternative réelle. Donc voilà, ça c'est un petit peu le résumé de ce qui s'est passé des épisodes précédents. Et
oui, vas-y.
Rupture en janvier 2024.
Alors c'est ça, vas-y.
On a donc le premier lancement de satellites équipés avec une nouvelle technologie qui s'appelle le Direct-to-Cell. Donc ça a démarré effectivement en janvier 2024. On est sur des satellites un petit peu plus massifs. Je te rappelle que la masse des précédents, ils étaient à peu près dans les 300 kilos. Là, on est sur des bébés qui font 900 kilos. Et pourquoi?
Ah oui, donc ils sont beaucoup plus gros.
Ils sont beaucoup plus gros. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils intègrent des technologies de communication mobile dans les satellites maintenant pour que ce soit une alternative de couverture avec un téléphone normal. Pas besoin de modification de ton téléphone mobile. On va être capable d'utiliser non seulement ce réseau de satellites pour être connecté à la maison, mais aussi pour connecter son mobile dans des zones où il n'y a pas de couverture.
C'est-à-dire que tu es, je ne sais pas moi, en plein désert, loin de tout, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de 4G, tu n'as pas de 3G, tu n'as rien.
Tu n'as rien ou très peu,
ou ça marche très mal.
Ça marche très mal.
Et notamment aujourd'hui aux États-Unis, comme il le disait, les images le montrent, dans la conférence de presse de lancement, ils ont des zones aujourd'hui qui sont toujours non couvertes.
Bien sûr,
il y en a plein. La superficie des États-Unis n'est pas celle de la France, et qu'il y a beaucoup de zones non couvertes.
Tu allumes ton téléphone.
Ouais.
Ton téléphone.
Le téléphone va capter le satellite.
C'est ça.
C'est-à-dire que ton téléphone.
Alors, Apple le fait déjà pour les services d'urgence.
Mais là, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir de la data, en fait.
Exactement. Tu auras de la data. Aujourd'hui, ils ont fait tourner des SMS, ils ont fait tourner des MMS. La semaine dernière, il y a une vidéo d'un échange, d'un vidéo call par l'intermédiaire de X, Twitter, qui est fonctionnel. Et donc, pour que ça fonctionne, là, on revient en 2022. Il y a eu une annonce très importante qui a été faite, mais qui, à l'époque, finalement, est un peu passée sous le radar parce que Starlink en était à ses débuts. En août 2022, il y a SpaceX et T-Mobile qui ont annoncé un partenariat. Pourquoi ? Parce que T-Mobile souhaite couvrir ces régions non couvertes, ne va pas aller développer
des
antennes
partout,
et des émetteurs traditionnels, parce que ça coûterait une fortune d'aller couvrir et de câbler, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ces régions-là. Donc du coup, leur idée à l'époque était de dire, voilà, on va utiliser l'infrastructure Starlink, je vais leur donner une partie de ma bande de fréquence, je vais leur laisser le droit de l'utiliser, et on va équiper ces satellites en supplément de ce qu'ils font déjà, hein, parce que tout ça, ça vient on top des bandes traditionnelles et de la partie connectivité de la maison. On va aller aussi les équiper de ces fameuses antennes LTE traditionnelles dans ce satellite. Alors, c'est pour ça que là, le satellite, il s'est pris un petit peu... On est passé sur des modèles un petit peu plus...
Imagine la puissance, parce que là, c'est à 500 km d'altitude. Donc, en fait, ça veut dire que ton mobile arrive à recevoir des données et à en émettre.
C'est ce que disait Elon Musk dans cette conférence de presse que je vous engage à regarder. Technologiquement parlant, ils ont fait quelque chose qui est fondamentalement différent. Je rappelle qu'une antenne 4G terrestre, elle ne bouge pas. Je rappelle que les satellites
filent
à 17 000 km par heure. Donc
en fait,
il y a une complexité technologique.
C'est une succession de satellites, en fait, quand on passe un coup de fil ou quand on, on a de la data.
C'est jamais le même, en fait. Ils se mettent entre eux. Mais... Donc là, non seulement ils ajoutent des antennes qui sont fantastiques, c'est-à-dire qu'ils disaient dans la conférence de presse qu'en termes de technologie, c'est sans doute les antennes les plus sophistiquées qui existent aujourd'hui. Parce que dis-toi bien que ton mobile sur Terre va capter une antenne satellitaire. Mais lui, il ne se rend pas compte. Pour lui, c'est une antenne.
Oui, c'est une antenne, bien sûr.
Normale, qui ne voit pas la différence. Voilà. Ouais. Sauf qu'elle est à 450 ou 500 km au-dessus de ta tête et qu'elle permet en fait de restituer ce réseau LTE. Et donc là, comment ça fonctionne ? De la même manière, on a nos fameux satellites qui sont connectés toujours à une station terrestre qui elle-même va être connectée directement cette fois-ci à cet opérateur. Puisque là, on est dans le cadre d'un partenariat entre T-Mobile et SpaceX. Et ce qui est très marrant, c'est que dans cette conférence de presse, ils ont même été plus loin. T-Mobile a encouragé les autres fournisseurs d'accès dans le monde en disant « Écoutez, je suis le premier. Moi, je suis très content de faire ça pour les États-Unis.
Oui.
Mais on ne veut pas s'arrêter là.
Ouais.
Pensons à tous les
pour
pays
tous les opérateurs locaux
dans le monde.
Bien sûr, ouais.
Essayez de. Est-ce que vous avez un intérêt à dupliquer ce modèle qui aujourd'hui est nouveau et qui n'existait pas avant ? La techno est là, elle fonctionne. Et donc là, donc maintenant, tu as ces pour donner une idée de capacité, ces satellites sont capables d'absorber de 1000 à 2000 appels en simultané. Voix. Mmh. Je parle d'un appel traditionnel jusqu'à 100 000 SMS.
Ouais, donc
et donc là maintenant il y a des capacités vidéo parce que la semaine dernière il montrait très clairement que c'était technologiquement possible de faire des appels vidéo. Donc là on est
donc il va monter en puissance sur le lancement de ces nouveaux satellites.
Oui, parce que les 6 premiers, c'est pas vieux, hein, ça a été lancé en janvier 2024. Et là maintenant ils viennent d'en rajouter un petit peu, on est à peine à 38. C'est le début.
Ouais.
Donc, dans la constellation Starlink...
Ça n'a pas marché partout, d'ailleurs.
Aujourd'hui, c'est que aux États-Unis.
Aux États-Unis,
et c'est que sur le réseau de T-Mobile.
Ouais.
Voilà. Alors, il y a d'autres pays qui ont déjà annoncé que ça les intéressait. T'as le Canada, t'as le Japon, t'as l'Australie, t'as la Suisse, t'as la Nouvelle-Zélande, t'as le Chili, t'as le Pérou. Et ça continue tous les mois de s'ajouter. Parce que pour eux, c'est une alternative réelle aux technos traditionnels.
Merci Lionel, c'est passionnant tout ça.
Voilà.
Starlink qui va super vite. À noter que bon, il y a un concurrent hein, qui est dans les starting blocks, c'est Kuiper,
bien sûr,
d'Amazon,
qui vient de finir sa bêta là avec ses deux satellites et ils sont en train de les redescendre.
Donc, c'est le prochain en ligne qui, a priori, peut se dire qu'il va lancer une constellation supplémentaire.
La guerre de l'Internet, maintenant, va se jouer dans les airs. Ça, c'est certain.
Elle est en train de se déplacer, en fait. Ouais,
et elle va devenir mondiale, en fait. Parce que...
oui, d'ailleurs, il n'y a pas que Amazon, il y en a d'autres. Mais bon, on va dire que Starlink a quand même une longueur d'avance phénoménale.
Ouais. Ouais, c'est dingue. Merci beaucoup, Lionel. Passionnant.
Merci
tout
à toi,
ça.
François.
Et merci de nous avoir suivis. Ce De quoi je me mêle est terminé. Le petit module bonus qui vous attend, je vous le rappelle, si vous nous écoutez en podcast, voilà, la version audio, quelques minutes supplémentaires avec Anthony et Eric. Et moi, j'aurai le plaisir, bien sûr, de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
Le petit module bonus de quoi je me mêle. Évidemment, vous ne partirez pas sans votre petit module bonus. Attention, exclusivité, podcast audio. Vous le savez, à partir du moment où vous nous écoutez, vous téléchargez le podcast, vous avez ces quelques minutes supplémentaires avec voilà, une petite actu qui mérite qu'on s'y intéresse. Toujours Eric Le Bourlou, toujours Anthony Morel. Et on va revenir un petit peu sur le fight des réseaux sociaux de la semaine.
Ouais.
Lunaire, ouais. Improbable. Entre Elon Musk, alors bon, c'est pas lui, c'est un habitué des fights.
Lui, c'est tous les jours.
Voilà. Mais de l'autre côté, quelqu'un, évidemment, qui est énormément respecté, un ponte de l'IA, un Français, Yann Lequin.
Ouais.
Et bien, il y a quelques jours, ils se sont tweet-clashés carrément devant tout le monde.
X-clashés, il faudrait dire maintenant.
X-clashés,
c'est ça. X-clashés. Moi, j'adore les tweet-clashes. Je sais pas, c'est mon côté.
Ah ouais, attends, tu sais quoi, un petit pot de popcorn et ça, mais c'est
exactement, tu
c'est
sors le
bien,
popcorn,
bon.
tu te fais
c'est
plaisir.
Vrai.
Et quand j'ai vu qu'il y avait...
Bon, tu perds deux heures, hein. Ouais. Mais c'est pas grave.
T'as rien appris, ta vie ne s'est pas améliorée d'un iota, mais tu t'es fait plaisir.
C'est ça,
et là, ils ont commencé à se prendre la tête. Mais surtout, ce qui est fou, c'est que c'est Yann Lequin qui a attaqué. Alors moi, ça me fait... Parce que Elon Musk, bon, tout le monde le clash, il répond quand tu pèses un peu, quoi. Alors Yann Lequin, forcément, il est un petit peu important. Donc là, Elon Musk, je l'ai sous les yeux, hein, donc je vous le fais vraiment rapidement, mais en gros, il fait une sorte d'appel à candidature pour XAI, hein, donc son entreprise d'intelligence artificielle. Donc il dit, rejoignez XAI si vous voulez nous rejoindre notre mission de mieux comprendre l'univers, blablabla. Et Yann Lequin,
tout
bam
ça pour, tout ça dans un contexte où, évidemment, toutes ces boîtes d'IA recherchent les meilleurs ingénieurs, les meilleurs collaborateurs. Donc voilà, il faut faire le pan, quoi. Hein,
exactement, exactement. Et Yann Lequin lui répond en 3 ou 4 points, en mode sniper, ou en mode parodique, en fait. Il dit, oui, rejoignez XAI si vous voulez avoir un boss qui proclame que ce sur quoi vous travaillez va être terminé l'an prochain sans aucune pression. Si vous voulez bosser pour un boss qui proclame que ce sur quoi vous travaillez va tout défoncer et sera arrêté dans 6 mois, donc il fait une référence à la lettre ouverte sur la pause de l'intelligence artificielle. Enfin, en gros, il lui envoie vraiment un missile, un missile dans la tête, quoi.
Parce qu'on sait en plus qu'au niveau social, Elon Musk, c'est pas, il n'est pas au top.
Il,
hein,
pas
quand
terrible.
Même, hein. Il peut virer les gens d'une seconde à l'autre. On l'a vu sur Twitter, on l'a vu.
Et puis il doit être assez épuisant comme
Tesla. Personne.
C'est
donc
ça.
C'est vrai que c'est un peu ce que reprochait Yann Lequin. C'est que attention à la face sombre un petit peu de ce recrutement.
C'est en gros, je l'ai très mal traduit, mais c'est les pratiques sociales d'Elon Musk et le côté les rodomontades en mode vous allez voir ce que vous allez voir, on va tout révolutionner, alors qu'en fait, parfois le calendrier annoncé par Elon Musk est quand même un petit peu optimiste.
Et puis aussi, comme tu le dis, le fait que Elon Musk s'est prononcé publiquement pour faire une pause sur l'IA et a peur que l'IA, détruise l'humanité, etc. À quoi Yann Lequin ne croit pas du tout.
C'est clair.
Voilà.
Et donc quelqu'un répond à Yann Lequin en disant ouais, mais bon, Yann, c'est un peu facile et tout, ces attaques. Toi, t'as qu'à créer ton entreprise d'IA, c'est facile de dire ça alors que t'es salarié de Meta, en gros. Et Lequin répond non, mais moi, je suis un scientifique, je suis pas un businessman ni un chef de produit. Et Elon Musk lui répond quelle science as-tu produit ces 5 dernières années, science entre guillemets. Yann Lequin lui dit j'ai écrit 80 papiers techniques qui ont été publié, et après il y a tout un débat sur ce qu'est une publication scientifique,
oui, après, évidemment dans les tiroirs du tweet.
Exactement. Puis avec tout le monde, tu vois, les fans des uns et de l'un et de l'autre qui se déchaînent. Alors là, plutôt contre Yann Lequin quand même globalement, c'est-à-dire que
il a une grosse fanbase, hein, Elon Musk.
Ouais,
hein,
ouais, c'est vrai.
Du coup,
c'est vrai.
Le compte le plus suivi.
Ouais. Donc, et puis c'est
statistiquement,
c'est vrai.
Yann Lequin a du mal à réagir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que Elon Musk ne connaissait pas Yann Lequin.
Alors, s'ils se connaissaient, hein.
Ouais, mais c'est bizarre, tu lui dis, mais tu dis, mais qu'est-ce que t'as fait, toi, tes cinq dernières années?
Ouais, mais c'est, si c'est tu dis provoque, ça, c'est de la provoque.
C'est de la provoque.
Ouais, c'est de la provoque. C'est un peu du mépris aussi.
Et c'était limite, parce que, en fait, comment. Enfin, Elon Musk dit ça à Yann LeCun, c'est quand même un peu fort de café.
Ouais.
Sachant que. Et d'ailleurs, il a répondu un truc qui est assez génial, Yann LeCun. Il dit quand même. Alors, c'était pas les cinq dernières années, certes, mais il lui répond à un moment, je ne sais pas trop ce que tu pourrais faire. Avec tes Tesla et la détection visuelle dont bénéficient toutes les Tesla, sans ce que j'ai créé, c'est-à-dire mon invention. Explique-moi comment faire si tu n'utilises pas ce que j'ai fait pour faire tourner la vision intelligente de tes voitures. Bon, là, il n'y a pas eu de réponse, hein, parce que effectivement, c'est difficile de le corneriser quand même, Yann LeCun, sur l'IA. Quand même.
Ouais, c'est vrai. Mais après, tu comprends ce qui lui reproche. Moi, c'est ça que je trouve un peu dur aussi, quoi. Ce qui reproche à Elon Musk, c'est plus sa personnalité, le côté complotiste, enfin je mets des guillemets parce qu'on peut juger qu'il est complotiste ou pas, ses prises de position politique, parce qu'il y a un moment on lui demande qu'est-ce que tu lui reproches.
On s'éloigne du sujet.
Ben, c'est exactement ça. Mais en fait, Yann LeCun répond, il dit non, je déteste pas Elon Musk, j'adore ses voitures, j'adore ses fusées, en revanche je déteste ses prises de position, ses machins et tout. Et t'es il a le droit, c'est ce qu'il veut, tu vois.
Voilà,
il y a quand même effectivement, il y a de ça, mais il y a aussi un fond de dispute sur l'IA, en fait. Et effectivement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que je pense que Yann LeCun prend un peu Elon Musk pour un naze en matière d'intelligence artificielle. Et quand il voit qu'il recrute et qu'il montre un peu les muscles sur sa boîte d'IA, il a un peu envie de remettre les pendules à l'heure, je pense.
Ouais,
mais je pense que c'est ça, en fait, le fond du truc, au-delà du côté un peu, on va dire, tendancieux de Musk, qui effectivement n'aide pas non plus, parce que je suis d'accord avec lui sur ce qu'il a fait de Twitter aujourd'hui. C'est un peu compliqué quand même, parce que c'est devenu un cloaque. Donc ça, c'est un petit truc en plus, mais je pense que le fond du problème, c'est vraiment leur différence à propos de l'IA, quoi.
Bah, c'est vrai qu'Yann LeCun, il passe son temps à démythifier, à débunker tous les trucs que Elon Musk dit.
Exactement.
Sur l'IA. C'est-à-dire que Elon Musk a quand même un discours hyper alarmiste sur, en gros, l'IA, il faut un gros bouton rouge
seul,
pour l'arrêter.
Hein,
non, c'est pas le seul, mais
non.
C'est la plus grosse tête d'affiche, quoi. Ouais. Bon, Elon Musk tweet un truc, quand il tweet, quand il dit d'ailleurs à Vivatech, l'IA, c'est la fin du monde du travail, il va tous falloir qu'on réfléchisse au sens de notre vie parce qu'on n'aura plus de boulot dans quelques années, tout sera pris par l'IA. Ou quand il dit l'IA, il va falloir créer un kill switch parce qu'il y a un moment elle peut nous dépasser et imaginer des scénarios à la Terminator. Yann LeCun, il passe son temps à dire tout ça, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que, bon, en matière d'IA et de connaissances et de gens qui ont vraiment les mains dans le cambouis sur l'IA, on a plus tendance à faire confiance quand même à Yann LeCun qu'à Elon Musk.
Oui, alors,
mais je pense que ça doit un peu le saouler au bout d'un moment de devoir à chaque fois remettre les pendules à l'heure et réexpliquer non, l'IA va pas détruire tous les emplois et que non, l'IA va pas se retourner contre l'être humain. Enfin voilà, je pense qu'il y a ce côté-là.
Après, c'est des débats. Malgré tout, assez constructif, moi, je trouve, parce que d'un côté...
Si on les tourne comme ça, mais bon, si ça tourne aux attaques personnelles...
Là, on est d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Yann LeCun a répondu à Elon Musk en disant... quand Elon Musk lui demandait « Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, ces cinq dernières années ?» Et qu'Elon Musk a dit « J'ai écrit 80 papiers qui ont été publiés depuis 2022. » En fait, Elon Musk a répondu et a dit que c'était pas grand-chose et qu'il était temps que Yann LeCun travaille plus durement.
Ouais, il a répondu ça,
mais...
Ce à quoi il a dit « Tu te prends pour mon patron maintenant. »
C'est drôle,
mais il attend beaucoup de ses salariés, Elon Musk.
C'est vraiment super, ces petits...
Et ça s'est conclu avec... Enfin, je ne sais pas si ça s'est conclu parce que ça continue,
parce
que quelqu'un, un internaute, leur dit « Mais il faut régler ça dans un octogone, quoi.
Ouais. »
Et Yann LeCun répond « Moi, je serais d'accord pour une course de bateau. » On verra ce que Elon Musk répond et si...
c'est marrant parce que ça montre aussi... parce que derrière ça, il y a aussi une espèce de fight entre... Elon Musk est le patron de Yann LeCun, qui est Mark Zuckerberg, parce que Elon Musk n'arrête pas aussi de bitcher entre guillemets sur Meta et sur les services de Meta en disant Facebook c'est nul, Meta a quand même créé une copie de Twitter il y a pas longtemps qui s'appelle Threads et qui commence un peu à décoller mine de rien. Donc il y a vraiment entre les deux entreprises
il y a vraiment de
l'inimitié, quoi.
Et tout ça pour expliquer encore une fois, c'est peut-être le plus important, c'est que X reste quand même un réseau social incroyable.
C'est génial. C'est fou. Vraiment, c'est
formidable.
Pour voir
des gens qui se mettent sur la
et tout, ça c'est quand même.
Qui perd des heures, mais c'est génial. Mais par contre, il faut vraiment qu'ils revoient. Enfin, on en reparlera peut-être, hein, mais la politique de de modération, mais de comment tu peux lire les contenus.
C'est pas logique du tout.
Illisible, mais vraiment illisible. C'est désagréable en fait.
Les threads, c'est pas intuitif.
Mais ça a ni queue ni tête.
Merci à tous les deux.
Merci.
Merci François.
Bon, on se tweet clash sur.
On va créer un sujet, petit tweet clash là pour,
pour booster un petit peu le truc. Merci en tous les cas de nous suivre. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Salut à tous.